Babylone. Nancy Ypsilantis.
Et Jean-Marc Facombello. Bonjour et bienvenue à Babylone. Cette année, dans le cadre du Festival de la Cité de Lausanne et du 50e anniversaire d'Expo 64, une initiative artistico-sociologique est revenue sur la fameuse enquête de l'Expo 64 sur la relation des Suisses à leur pays. Un retour dans l'histoire, dans cette même exposition, et qu'on va visiter en votre compagnie, Jean-Marc Falcombello.
Oui, alors effectivement, on va pas revisiter l'exposition de 64, mais par contre, on va se demander, là, durant cette heure de Babylone, eh bien, pourquoi à l'époque, d'abord, cette exposition 64 échauffe tant les esprits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à l'époque ce questionnaire dit Gulliver, qui va vraiment créer la polémique. Et puis alors, au point où les autorités prennent peur devant les réponses qui semblent trop peu orthodoxes à leur goût et disparaissent carrément. Là, on pourrait imaginer faire des enquêtes sur cette disparition.
Il y a eu un film sur la disparition de ces archives, d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. Très bien. Ben voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le climat, il a complètement changé. On n'est plus à la crainte. Et l'enquête a été remise au goût du jour. Alors, il n'y a plus non plus de géant qui vient visiter le pays des Suisses. C'était Gulliver. Mais il y a bien une liste de questions, 25 en tout, pour en savoir plus sur cette Suisse et sur aussi le rapport que l'on a avec nous-mêmes, bien sûr.
Qui voudrait troubler la quiétude de ces lieux? Qui se souvient encore des questions parfois impertinentes que posait le géant Gulliver? Il avait procédé au premier sondage en grandeur nature jamais effectué en Suisse.
Qu'est-ce qui change la condition de la femme suisse? Je pense que sa condition changerait favorablement.
580 000 personnes avaient répondu à une douzaine de questions, tantôt drôles, tantôt sérieuses. Imaginé entre autres par le metteur en scène Charles Apotello.
Les dames en chemise chez Gavilla.
Tout à coup, il est venu avec une idée qui était de se dire, mais en somme, vous faites une exposition nationale, mais est-ce qu'on sait bien ce que c'est que les Suisses? Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse?
Après avoir répondu au questionnaire, vos réponses étaient enregistrées, puis en une minute, Gulliver vous offrait sa réponse.
Question 12. Penses-tu avoir répondu à ces questions comme la majorité des visiteurs suisses?
Studieux et appliqué, Gulliver vous classait dans telle ou telle catégorie de Suisses et comparait vos réponses à celles des autres.
Tu m'as appris que tu faisais partie des 300 000 Suisses vivant à l'étranger.
Une telle personnalisation était possible parce que 1200 foyers helvétiques avaient été longuement interrogés par une équipe d'enquêteurs. Dès 1962, ils avaient sillonné la Suisse, recueillant plein d'informations sur le mode de vie des Suisses dans la première enquête sociologique jamais réalisée dans notre pays, où les Suisses s'exprimaient sans retenue.
Pour nous accompagner en direct aujourd'hui, Michael Kinzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Festival de la Cité de Lausanne, dont c'est le 43e anniversaire. C'était un ordre de marche de revisiter ce questionnaire de 1964?
En ordre de marche, pas
fortement
certain.
Fortement suggéré?
Non, disons, c'était une opportunité qui nous a clairement intéressés. C'est-à-dire, on a été contactés dans le cadre des commémorations du cinquantenaire d'Expo 64 avec la question de savoir si on souhaitait collaborer en lien avec Gulliver. Je trouvais évidemment ça particulièrement intéressant, Jean-Marc l'a évoqué, au vu des remous que ça avait suscité à l'époque, avec deux possibilités finalement qui me semblaient relativement évidentes. D'une part, retravailler le questionnaire ou alors faire le procès finalement de cette censure qui avait eu lieu à l'époque. Mise en scène finalement de cette censure, vu que ce sont aussi toutes des formes théâtrales ou artistiques. J'ai alors pris contact avec le duo d'artistes Comencom, avec qui j'avais travaillé par le passé, avec qui on était aussi en contact pour le festival, en se disant que ça valait la peine une fois de travailler ensemble si l'occasion se présentait. Ils travaillent énormément avec la suissitude, avec finalement le rapport entre l'art, la société et l'identité suisse, et ça me semblait évident de prendre contact avec eux dans ce cadre-là, en lien avec Gulliver. Ça s'est avéré opportun, vu que eux aussi ont directement repris la balle au bon. Ils avaient proposé déjà à l'époque de travailler sur un projet avec Milo Rau, et ils ont évidemment trouvé le sujet très intéressant à approfondir, en l'occurrence sous la forme d'un retravail du questionnaire.
Alors Milo Rau, on l'entendra, ce metteur en scène, en deuxième partie de Babylone, après avoir entendu un sociologue, Olivier Möchler. Mais encore juste une chose avant qu'on ne l'écoute. En 1964, un vrai trublion de la culture, Charles Apotheloz. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des figures aussi importantes, aussi révolutionnaires que lui, où on trouve plus, parce que finalement, Ben, la Suisse n'existe pas, ça va.
Je pense que la situation a un petit peu changé. C'est vrai que les canaux de diffusion globaux de la communication, de la culture, sont aujourd'hui beaucoup plus larges. Beaucoup de choses ont aussi été faites de l'ordre de la provocation, de l'ordre du rapport à l'histoire. On est aujourd'hui peut-être potentiellement moins fort sur un seul acte qu'on pouvait l'être à l'époque. Je pense qu'aussi Charles Apotheloz, par le biais de tout son parcours, mais aussi de cette action Gulliver, a évidemment bénéficié à un moment de l'impact d'une exposition nationale et d'un travail qui est finalement resté dans l'ombre et dans la construction pendant longtemps, avant finalement d'éclater au grand jour et de révéler finalement son potentiel de risque. Aujourd'hui, il y a clairement des artistes qui sont des trublions, des provocateurs. Ce qui nous semblait intéressant, nous, c'était pas de travailler dans la provocation, c'était de travailler dans la réalité, dans la documentation, dans un reflet, dans un miroir de société, qui évidemment comporte toujours, par la force des choses, un certain potentiel d'allumage, si on veut.
Alors l'un des allumés invités pour commenter, c'est Olivier Moechsler, Jean-Marc Facombello.
Oui, Olivier Moechsler, qui est sociologue, qui a travaillé avec René Lévy, parce que ce qui est intéressant dans cette expérience, vous le dites, Michael, c'est de remettre en forme ce questionnaire Gulliver, mais surtout c'est de faire se croiser les regards. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. On a Comencom, on a un festival, et on a des sociologues, dont bien sûr René Lévy et Olivier Moechsler. Donc c'est une espèce de mix. Je pense que ce serait intéressant après qu'on parle de ce mix-là. Mais parce que c'est quand même pas évident de mettre tout ce monde ensemble. Donc voilà, Olivier Moechsler, donc, qui fait partie du comité scientifique. Et puis j'ai voulu savoir pourquoi refaire aujourd'hui ce questionnaire de nouveau. Hein, forcément, c'est là l'intrigue. Y a-t-il quelque chose dans l'air du temps qui peut-être nous y conduit ?
Alors, je crois qu'il faut être très clair qu'au départ, c'était vraiment l'idée de jubilé, entre guillemets, d'anniversaire, les 50 ans de l'expo, et en 2014, 64-14. Et donc, l'idée de rééditer au départ, elle vient de là. C'est un projet aussi de longue haleine, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en quelques semaines. Donc, du coup, c'est difficile après de l'ajuster par rapport à l'actualité. Mais c'est vrai que, du coup, si on regarde un peu cette année, justement, l'actualité qu'il y a eu ces derniers mois ou qu'il y aura ces prochains temps, dans une résonance intéressante avec, évidemment, on pense un peu au 9 février. Voyez peut-être sur l'immigration de masse prochainement, enfin le débat actuel et la votation sur Ecopop par exemple, enfin la situation peut-être de l'Europe aussi aujourd'hui par rapport à la Suisse qui tire son épingle du jeu, etc. Enfin, il y a plusieurs choses dans l'actualité plus ou moins longue qui font que du coup ces résultats peuvent entrer dans une résonance intéressante. C'est un projet mi-artistique, mi-scientifique, enfin une collaboration. Et là, pour le coup, effectivement, par rapport aux questions du questionnaire, c'est tout à fait clairement, au départ, il faut le dire, les artistes, hein, les artistes qui portent le projet, c'est eux qui ont, au fond, dans un premier temps, réfléchi dans un brainstorming à 300, ont-ils dit, 300 questions possibles à poser aujourd'hui. Donc c'est eux, alors je pense que là, c'est plutôt le regard de l'artiste qui effectivement, dont le rôle, un peu comme celui du scientifique, est finalement de tendre un miroir à la société d'aujourd'hui. Chacun à sa manière. Et c'est eux aussi, ensuite, qui ont, il faut le dire, réduit ces 300 questions, qui sont évidemment un peu trop nombreuses, à une trentaine, la trentaine qui a été posée ensuite dans le questionnaire online. Nous, les sociologues, les scientifiques, on est entrés en jeu, au fond, plutôt dans la phase finale du questionnaire, de la construction, pour à la fois, disons, on va dire, calibrer un peu pour que ça soit posé de manière techniquement correcte, mais aussi, il faut dire aussi, on a de temps en temps donné des idées, en essayant d'apporter, de reprendre quand même encore telle ou telle question de 64, parce qu'il y avait aussi ça, hein, cette idée de reprendre des questions de Gulliver. Mais on a joué un rôle un peu sur la fin. Le lead était très clairement du côté des artistes, et peut-être pourront-ils vous en dire plus sur je pense, le côté effectivement miroir tendu à la société qu'ils ont mis dans ces questions.
Est-ce que ça a été l'occasion, cette élaboration des questions, de revenir dans l'histoire, de découvrir, et là je parle vraiment aux sociologues, c'est-à-dire qu'avec votre connaissance aujourd'hui, était-ce alors pour vous l'occasion de poser un regard sur cette période, peut-être avec étonnement?
Et alors on peut travaillé sur les époques révolues, passées, dans le cadre de nos travaux. J'avais travaillé sur ces années 60-70 en m'intéressant au nouveau cinéma suisse, à la politique du cinéma qui se met en place. Et donc, du coup, on s'intéresse effectivement à la société suisse de ces années. Et effectivement, s'intéresser aux années 60, c'est de toute façon une époque charnière. Et l'expo elle-même fait un peu charnière, effectivement, entre une Suisse peut-être un peu plus encore ancrée dans le passé, qui sort de la guerre, et une Suisse, au fond, qui commence à démarrer, à entrer dans la société de consommation de masse, la surchauffe économique, le problème de l'immigration qui commence à arriver, etc. Enfin, le problème, en tout cas, l'immigration qui commence à arriver. Vraiment, cette année 64 est intéressante, et l'expo l'incarne bien. Un moment intéressant de transition entre l'ancien et le nouveau, la Suisse peut-être d'avant-guerre, un peu, qui est encore un peu perceptible dans certaines valeurs, dans certaines structures, et déjà la Suisse d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une forme d'écho, de jeu de miroir dans ces phases de transition qui se répètent ?
Alors, c'est vrai, quand on regarde notamment les petits films de Henri Brandt à l'Expo, qui traitaient de l'immigration, des problèmes des personnes âgées, du problème d'écologie, du problème du matérialisme, de la consommation, au fond, ils sont d'une actualité brûlante. Et au fond, on n'a pas tellement... on est toujours dans cette période charnière, effectivement. Alors, peut-être de nouveau plus qu'avant, parce que l'Europe ne va pas très bien, et qu'en Suisse, il y a effectivement certaines votations qui font penser à une sorte de petit sursaut identitaire. Je pense au 9 février, peut-être qu'Ecopop, on verra ce que ça donne. Et donc, au fond, on est de toute façon dans un système qui est tout le temps en mouvement. Et dans ce sens-là, on est tout le temps un peu dans une charnière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on peut en tout cas, du coup, trouver 50 ans après, un peu le même genre de défi qui se pose à ce pays, ce petit pays au milieu de l'Europe, et qui à la fois fait partie de l'Europe et ne veut pas en faire partie.
Alors, ce qui est intéressant dans votre réponse, Olivier Mochler, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de continuité dans cette confrontation constante, cette difficulté d'identité. On pourrait presque dire que c'est une caractéristique du pays ou caractéristique de la mentalité.
Alors, c'est sûr qu'à la base, la Suisse, comme d'autres pays, on pense évidemment à la Belgique, est un pays avec plusieurs langues, plusieurs aires culturelles, et c'est la fameuse Willensnation, un pays de volonté. Alors, des fois, on cherche aussi cette volonté, mais effectivement, un pays qui n'a pas été dicté d'en haut du tout, d'ailleurs, peut-être un tout petit peu par les Français, Napoléon autour de 1798, mais disant que c'est un pays qui s'est confédéré et qui est composé, déjà en lui-même, de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs sensibilités. Et donc, je pense que le questionnement, alors on le critique aussi pour ça, pourquoi toujours se questionner, mais je pense qu'il est un tout petit peu, peut-être dans les gènes de la Suisse. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui, je pense évidemment au pavillon officiel, d'ailleurs, de l'Expo universelle de Séville en 82, le pavillon officiel qui arborait comme slogan la Suisse n'existe pas, avec tout ce qu'il y a de d'ambivalent, puisque c'était le slogan de l'artiste Ben qui devait représenter la Suisse, qui a d'ailleurs donné beaucoup de polémiques ensuite en Suisse. Mais il y a, je pense, pas beaucoup de pays qui ont une vision aussi, au fond, aussi un peu critique et interrogative sur leur propre identité. Après, c'est vrai que parmi les résultats qu'on peut tirer du questionnaire actuel, par rapport à ces valeurs suisses, il y a une question sur qu'est-ce qui fait qu'on est un bon Suisse, entre guillemets. Si on compare aussi un tout petit peu avec les chiffres qu'on avait quand même à disposition de 64, de cette époque-là, on voit qu'il y a une certaine décontraction, je pense qu'on peut dire, par rapport à certaines valeurs, ou effectivement se lever à 9h du matin, la fameuse question qui était déjà assez largement accepté en 64, on peut être un bon Suisse et se lever à 9h du matin. Aujourd'hui, elle l'est encore bien plus. Une autre question, c'était sur est-ce qu'on peut être un bon Suisse et ne pas être un bon soldat. Il y avait tout juste une majorité qui le disait en 64 aussi. Aujourd'hui, cette majorité par rapport à ne pas faire de service militaire est beaucoup plus grande. Enfin, d'une manière générale, il y a un certain détachement par rapport à peut-être une image un peu classique, un peu traditionnelle de la Suisse. En tout cas, un des résultats qui ressort de cette enquête aujourd'hui.
Diriez-vous, Olivier Mochler, que finalement, quand vous regardez les questions, parce que j'imagine que regarder le questionnaire Gulliver de l'époque renseigne tout autant que d'observer les réponses. Du point de vue des questionneurs, il y a une forme de continuité. On pourrait croire à cela quand je vous entends.
C'est-à-dire il y a aussi des ruptures, ça c'est très clair. Et comme vous dites, la question de la question, au fond, quelles sont les questions qu'on pose, est très intéressante. Et effectivement, quand on compare un peu les deux questionnaires, celui de Gulliver en 64 et celui online aujourd'hui. On voit par exemple, il est frappant de voir que la question des divisions intérieures, du rejeté graben, qui est posée aujourd'hui, ne l'était pas en 64. Alors est-ce qu'elle n'existait pas? Je ne pense pas, mais disons que c'était pas thématisé. La question des étrangers qui ressort très, très clairement comme problème, entre guillemets, dans la représentation des Suisses qui ressort aujourd'hui comme problème, n'était pas posée, existait dans les films d'Henri Brandt, mais dans l'enquête n'était pas posée en 64. À l'inverse, il y a des choses qui disparaissent, effectivement. Par exemple, il y avait une, en tout cas, question sur le communisme à l'époque. Alors effectivement, le communisme, quelque part, brille par son absence aujourd'hui. Et il est, alors je dis toujours, il est, entre guillemets, remplacé par l'islam. C'est l'islam qui devient, alors qui est évidemment quelque chose de moins politique que religieux, mais qui devient un peu la grande inconnue ou le grand...
Ouais, moi, j'ai été surpris de voir une question sur l'islam. Je me suis demandé, tiens, pourquoi l'islam?
Alors
pas
là,
autre
c'est
chose,
de nouveau, comme je vous dis, c'est nous, en tant que chercheurs, on a un peu laissé faire les artistes. Enfin, c'est eux qui disent que c'est pas qu'ils ont laissé faire, c'est eux qui nous ont chargé ensuite de terminer. Mais, et donc là, j'étais aussi, enfin, on était peut-être un peu étonné de voir ces questions. Et les résultats sont assez clairs et au fond assez difficiles à exploiter par leur clarté même, parce qu'au fond, on se dit qu'il y a probablement justement une grande inconnue, il y a une grande menace, mais aussi une grande inconnue, surtout sur cet islam qui est affublé de tous les mots et de toutes les images négatives. Ce sont probablement des stéréotypes. Et ce qui ressort surtout de cette partie-là du questionnaire, c'est qu'il faudrait au fond essayer de mieux connaître cette entité, cet ensemble-là.
Mais est-ce qu'on y voit une crainte affichée? Parce qu'il y a des craintes affichées qui, moi, m'ont étonné. C'est-à-dire qu'à la fois, cette population de ceux qui répondent, on voit clairement, quant à l'appartenance politique, ils sont franchement à gauche, quoi. Il y a une grande, grande majorité de gens qui se retrouvent dans une sensibilité socialiste.
Alors là, il faut faire très très attention. C'est très important d'en parler. C'est que c'est assez compliqué. Les artistes nous ont rendu la tâche très difficile. Il y a eu deux enquêtes en fait en ligne cette année. Il y a eu une première enquête avec un premier échantillon représentatif de 1000 personnes qui était vraiment choisi par quota en termes d'âge, de région linguistique et de sexe. Et
un là, sondage standard.
Et là, si vous regardez le profil de ces gens-là, c'est l'UDC qui ressort comme parti majoritaire, comme dans la réalité. Respectivement, c'est en fait les 100 partis. C'est les 100 partis qui ressortent comme majoritaires. 40% des gens ne se reconnaissent pas dans les partis, 22% dans l'UDC, etc. Et il y a eu une deuxième enquête. Alors ça brouille un peu les pistes, etc.
Alors,
mais il faut bien faire la différence.
Très bien.
Un peu plus tard, une enquête ouverte. Alors c'était aussi une sorte d'expérience un peu mi-artistique, mi-scientifique. Justement, on dit, revenez remplir le questionnaire en ligne. Et là, c'est une enquête ouverte. Et là, effectivement, comme vous le dites, c'est intéressant. Mais autrement, c'est intéressant parce qu'on voit que le profil, déjà, ça c'est intéressant, des répondants et complètement, enfin, entre guillemets, biaisé, c'est-à-dire que c'est des gens effectivement plutôt bien formés, urbains, plutôt jeunes, plutôt un peu masculins, plutôt branchés, que ce soit par rapport au Festival de la Cité, et puis ça se passait dans ce cadre-là, ou branchés aussi en termes d'informatique, parce que pour aller volontairement remplir un questionnaire en ligne, etc. Donc ce deuxième échantillon et ces résultats-là, ils ont un tout autre intérêt, mais là, on parle au fond, la plupart du temps, quand on parle de ces résultats, on parle du premier échantillon qui, lui, est représentatif.
Est-ce que vous voyez un grand décalage? Parce que c'est, d'abord, heureusement que vous arrivez avec cette précision, parce que pour moi, je pense que c'était pas si clair que cela, même si j'ai lu, bien sûr, qu'il y avait un organisme qui s'est chargé.
Il y a deux PowerPoint, c'est assez compliqué, il faut faire attention sur lequel on...
D'accord,
on
faire attention dans ce cas-là. Alors, est-ce que vous y voyez un grand décalage dans le type des réponses?
Entre les deux échantillons, il y a tout à fait de très grands décalages, et c'est ce décalage qui est intéressant plus que seulement les réponses de l'échantillon entre guillemets branché. C'est-à-dire effectivement il y a un décalage à la fois dans le profil comme on l'a dit, et ensuite aussi dans les réponses, effectivement, comme vous dites, qui sont du coup plus sortent un peu de gauche urbaine éclairée. Alors ça dépend du point de vue, mais en tout cas,
bien sûr, ça dépend
progressiste éclairé, ça dépend du point de vue, mais effectivement, où tout d'un coup tout ce côté par rapport aux étrangers, par rapport à un tout petit peu aussi à l'Europe, enfin par rapport à la plupart de ces thèmes-là, il y a une attitude globalement plus ouverte, plus compréhensive, mais qui est effectivement, du coup, vraiment, il faut le dire, c'est un échantillon qui représente surtout lui-même, quoi, qui représente un groupe social et non pas la population suisse. Alors ça, c'est un premier petit, effectivement, écart qu'on constate. Après, un autre écart qu'on a quand même pas mal constaté dans les résultats, cette fois de l'échantillon représentatif, c'est... Alors, il y a un peu le rejeté graben, mais effectivement, au fond, comme on est en train de le dire, le rejeté graben, c'est souvent aussi ce qu'on appelle le rejeté graben dans les discussions post-votation. Au fond, c'est souvent un tout petit peu l'opposition entre villes et justement peut-être une population un peu plus dans la modernité, un peu plus jeune et aisé, versus la campagne. Mais il y a aussi un autre... Nous, on était très étonnés, au fond, avec René Lévy, de constater ce qu'on a appelé un polenta graben, du coup. Puisque, au fond, dans ces 1000 personnes qui ont répondu, il y a une surreprésentation du Tessin qui est voulue, pour qu'on puisse aussi dire des choses sur le Tessin, sur les italophones en Suisse, enfin la Suisse italienne. Et effectivement, ce qu'on a vu sur la plupart des questions, être un bon Suisse, sur toutes ces questions sur le rapport aux étrangers, à l'étranger, vraiment une crispation beaucoup plus grande encore du côté du Tessin, qui a voilà des visions beaucoup plus traditionnalistes entre guillemets de ce que veut dire être un bon Suisse, qui est beaucoup plus négatif par rapport à l'ouverture, par rapport aux étrangers. Alors évidemment, on a un tout petit peu interprété en se disant, mais au fond, c'est probablement ce double aspect à la fois de effectivement grand afflux de transfrontaliers, hein. Ils ont au Tessin il y a un très haut taux de travailleurs frontaliers, beaucoup plus haut que même à Genève ou que de toute façon la moyenne suisse, et parallèlement je pense aussi, ça c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu, probablement le sentiment, mais si on demande un peu aux Tessinois de ce qui ressort des fois, d'être un tout petit peu délaissé au niveau de la Suisse, au niveau peut-être fédéral, au niveau peut-être de parlement, il y a plus de conseiller fédéral tessinois depuis quelques années. Évidemment, c'est surtout symbolique, mais pas seulement au fond. Hein, un conseiller fédéral, il va aussi peut-être défendre un tout petit peu, probablement sa région, en tout cas la représenter. Et là, il y a quelque chose, cette enquête, alors il faudrait un peu approfondir avec d'autres données, etc., mais a quand même mis au jour un fossé qu'on n'attendait pas, en fait, entre le Tessin. Alors, on hésitait entre spaghetti et polenta graben, mais en tout cas, entre le Tessin et les deux autres régions, ce qui est assez étonnant. Et ce qui me semble intéressant ensuite, effectivement, alors du coup, comme sociologue de la culture, alors culture à tous les niveaux, mais effectivement, cette fois plutôt par rapport à l'œuvre artistique, au fond, qui ressort de cette expérience, bah, c'est ce côté un peu novateur, au fond, à la fois en termes d'autorité, hein, j'allais dire autorité par rapport à l'auteur. Qui est l'auteur de cette œuvre finalement? Alors justement, on hésite un peu, vous aussi peut-être par rapport à votre émission, qui est invité, qui n'est pas invité, etc.
Absolument.
Alors au départ, ce sont les artistes, mais ensuite, effectivement, nous devenons tous un tout petit peu, et d'ailleurs vous aussi, les auditeurs finalement aussi, nous devenons tous un tout petit peu des figurants, voire des protagonistes, des acteurs de ce que les artistes eux-mêmes, d'ailleurs, appellent une sculpture sociale. Enfin, en tant que sociologue de la culture, ça me semble très intéressant, cette idée d'une œuvre, au fond, qui n'est pas finie, d'ailleurs non plus, qui est ouverte, qui se fait en continu, c'est-à-dire chaque fois qu'on intervient dans les médias, qu'on en parle, qu'on en débat de ce projet et de ses résultats, on est au fond en train d'actualiser l'œuvre, on est en train de la faire, on est en train d'y ajouter une pièce au puzzle. Et donc, c'est une sculpture sociale, effectivement, dans ce sens-là, et tant qu'on en discutera, tant qu'on en débattra, l'œuvre vivra, n'est pas finie. Finalement, un peu comme un tableau, un film, une pièce de théâtre aussi, hein, c'est sûr, mais là, peut-être encore plus fortement, parce que nous sommes en train de jouer la pièce, au fond, qui est un tout petit peu mise en scène, en tout cas mise en place par ces artistes, la pièce de cette œuvre qui n'en finit pas et qui, on l'espère en tout cas, va continuer à faire réfléchir aussi les Suisses sur eux-mêmes.
Si elle était mieux informée, les Suisses
seraient
plus intéressantes,
parce qu'elle
avait le droit
de
pouvoir
faire partie. À ton avis,
merci à Olivier Möschler, sociologue à l'Université de Lausanne et spécialiste de sociologie culturelle. Dans Babylone aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michael Kinzer, directeur du Festival de la Cité à Lausanne, et nous explorerons cette sculpture sociale suisse. Est-ce que, comme le temps le titrait, l'humeur suisse est un bonheur très inquiet?
Desperate land, and soon we'll see the sorry end.
Qui en dit long de la suissitude aujourd'hui. Not long ago, l'artiste suisse qui s'est appelé Heidi Happy en compagnie d'Ephrem Luchinger. Tout un programme. Michael Kinzer, dans ce morceau de musique, je le relève, on sent une nostalgie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti auprès des artistes contactés, une nostalgie d'une Suisse où l'avenir apparaissait comme étant plus glorieuse?
Alors c'est peut-être lié aux personnes qui ont participé à ce projet-là. Non, j'ai pas ressenti du tout de nostalgie dans ce sens-là. Je pense que c'est des personnes qui sont réellement ancrées dans la réalité, qui ont un bagage culturel, qui ont un bagage de société, qui ont un amour du pays, qui est forcément puise aussi dans le passé, mais pas du tout dans une optique de est-ce que c'était mieux avant, enfin dans ce sens-là. Donc c'est vraiment des gens qui interrogent plutôt la réalité de la Suisse aujourd'hui.
Vous avez dit l'amour du pays.
Oui, c'est des Comencom sont des gens qui ont beaucoup travaillé finalement avec l'identité suisse. Ils tournent dans le monde actuellement avec un projet qui s'appelle Bloch, qui est un projet que je trouve assez exceptionnel, qui finalement ils sont allés à une mise aux enchères d'un tronc d'arbre dans la Suisse, enfin, qu'on dit profonde. Je pense que c'est un mot qui est pas extraordinaire. Je le dis pour faciliter la compréhension. Dans un village, ils ont participé à cette mise aux enchères et ils ont acquis ce tronc, ils en ont fait un symbole de l'identité suisse qu'ils confrontent finalement à des démarches d'art contemporain en résonance entre la Suisse et l'étranger. Un autre projet qu'ils ont mis en place il y a quelques années, je crois que ils ont créé une mascotte qui s'appelait Mok Mok, évidemment en lien avec leur propre nom de collectif. C'était une mascotte inventée d'un village tout en lui donnant une vie réelle, comme si cette mascotte existait vraiment, et qui finalement a fait s'interroger la population sur est-ce qu'on se fout de notre tête,
est-ce qu'on se moque,
quelle est la réalité, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'intéressant, de suggestif à sortir de là. Et je trouve cette ouverture à la discussion qui est la plus passionnante.
Alors vous avez pris des notes en écoutant la parole du sociologue. Est-ce que vous avez des commentaires à amener, des commentaires du directeur du festival?
Oui, j'ai pris des notes, effectivement, en fonction des sujets qu'on va aborder. Ce qui était pour nous le plus passionnant, c'est que finalement une idée embryonnaire a pris une telle résonance, a pris une telle envergure aussi. Une des parties les plus intéressantes pour moi, c'est ce qu'il a dit à la fin aussi, c'est que ce projet artistique est composé de la population elle-même qui a finalement participé. C'est en participant à ce questionnaire, je pense surtout la seconde partie aussi, où on pouvait remplir le questionnaire en ligne, passer 15 minutes devant son ordinateur aujourd'hui, c'est très très long. On est quand même habitué à des formats très très courts, et c'est elle qui a finalement donné donné corps à cette sculpture sociale, elle lui a donné un sens. Mmh. Et je trouve que c'est une des parties où je suis le plus heureux. J'oublierai pas le fait que il y a une publication finale qui va sortir fin septembre, qui sera vernie lors de deux événements de clôture. Au théâtre de Vidi le 25 septembre et à Zurich le 14 octobre, qui permettra aussi au public et à un certain nombre de personnes de domaines différents de commenter, de rediscuter ces résultats.
Est-ce que vous avez senti déjà, vous pouvez nous livrer quelques résultats, ce fameux Rüschtigraben, ou au contraire, c'est à nouveau ville-campagne qui ressort?
Ce qui pour moi était particulier sur la question typiquement du Rüschtigraben, je trouve qu'un sondage finalement créé par des artistes, c'est assez ambigu. On peut imaginer justement que des artistes ont une liberté de ton absolue, qui vont pouvoir manipuler entre guillemets beaucoup plus qu'un sondage officiel. Et je trouve que la force de ce projet-là, même si finalement 25 questions, c'est peu par rapport au champ global de la société, c'est d'avoir su rester relativement neutre et d'avoir posé des questions pour certaines d'une simplicité très très évidente. Typiquement, quand on parle de accepteriez-vous d'accueillir un réfugié chez vous, c'est une question très directe, très simple, très facile à comprendre aussi, à laquelle la population a pu répondre. La question finalement du Rüschtigraben,
et puis la réponse, attendez, parce que vous voulez rester sur la question.
Oui, elle donne quand même clairement des signes aussi à un moment de possibilités pour la recouvrir. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle passablement aussi de la deuxième langue étrangère. Il y a quand même une discussion en Suisse allemande dans certaines régions sur ce qu'on doit adopter finalement l'anglais comme deuxième langue, alors que du sondage ressort que majoritairement c'est le fait qu'il faut parler et enseigner les langues nationales qui permettraient de recouvrir ce Rüschtigraben.
Voilà, donc il y a des résultats peut-être encourageants un peu.
Mais donc le résultat, j'en reviens, c'est quel pourcentage de Suisses désire ou accepterait d'accueillir un...
Je crois que c'est 30%, qui pour moi est aussi, alors Olivier Möschler l'a évoqué, sur cette ambivalence de la Suisse qui ressort du questionnaire, qui pour moi est une caractéristique assez forte finalement des résultats du sondage, mais aussi de la Suisse. Je pense qu'on est on est une population assez mesurée, on est une population assez réfléchie dans son ensemble. Et c'est vrai que sur cette question des étrangers, je dirais qu'il y a une particularité, c'est qu'évidemment quand on fait 25 questions, les artistes ont décidé justement d'approfondir certains champs, certaines thématiques, dont typiquement les étrangers qui se retrouvent finalement dans plusieurs questions. Et il y a pour moi une très forte ambivalence, c'est-à-dire il y a 30% qui souhaitent, qui sont prêts à accueillir des étrangers, 25% qui trouvent que la Confédération devrait pouvoir imposer à des communes un centre d'accueil, et en même temps que 15% qui souhaiteraient que la Suisse s'ouvre à l'Union européenne. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes. On souhaiterait pas que il ressort du sondage que je crois que 18% sont prêts à payer plus d'impôts si c'est pour des programmes d'intégration des étrangers. Donc finalement une position assez schizophrène, mais qui pour moi reflète cette ambivalence.
Jean-Marc Falcon-Bello, vous avez rencontré l'un de ces artistes acteurs.
Oui, bien sûr, parce que la question, elle apparaît fortement, c'est une sculpture sociale. Alors, une sculpture sociale, c'est quoi? Et ça, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'ai cherché la forme. Presque, je pourrais dire, instinctivement, parce qu'on s'attend justement... d'abord, il y a l'image de Gulliver, je trouve qu'elle occupe beaucoup l'espace intérieur, hein, notre représentation de l'exposition 64. Donc, je me suis dit, y avait-il une... je sais pas, un pendant, là, durant le Festival de la Cité. Puis, je me suis rendu compte, et on va entendre Milora, qui nous explique le sens, en fait, de cette sculpture sociale, qui est en fait une dématérialisation complète. Hein. Alors là, faut vraiment bien le comprendre, on n'est pas du tout dans la matière, on n'est pas du tout dans la forme, on est purement dans la réflexion. Mais Milora, c'est aussi quelqu'un qui est intéressant, parce que c'est le créateur du théâtre documentaire, c'est quelqu'un qui a mis en scène des événements historiques, hein. Ça va du Rwanda, en passant par le procès des Pussy Riot à Moscou. Donc la question que j'ai eu envie de lui poser, c'est comment fait-on pour mettre en scène un événement historique comme celui-ci?
Alors, il y a quelques questions qui sont remises et d'autres qui sont totalement transformées et encore d'autres qui sont totalement nouveaux. Alors, c'est un essai, 50 ans plus tard, de redemander la Suisse avec quelques moments de provocation, mais aussi avec quelques moments qui visent vraiment une idée de redemander la même chose, comme par exemple la question est-ce que si on se lève pas à 9 heures, on n'est pas un bon Suisse? Ça, c'est une question du premier questionnaire et qui, évidemment, les réponses étaient très différentes en 64 et maintenant. Alors, par exemple, la déformation principale, c'est qu'il n'y a pas eu un scandale, évidemment, autour de points de Suisse, comme en 64, quand l'État suisse, le gouvernement suisse allait se disparaître un peu les résultats, et c'est grâce à Luc Poltans, qui alors à l'époque l'assistant de Pierre Bourdieu, le sociologue français, qui a publié un livre sur les résultats, qui s'appelait Le Bonheur Suisse. Ce qui est très drôle, il y a un seul exemplaire dans la bibliothèque centrale Zurich, qui n'a plus été consulté depuis quelque chose comme 67.
Depuis 67, d'accord.
Alors ça a été consulté une fois, et depuis presque 50 ans, personne ne voulait plus lire les résultats du premier sondage.
Et puis sinon, peut-être une question, Miloro, êtes-vous d'accord avec l'idée que la forme d'expression artistique que vous choisissez est politique?
Oui, moi j'irais même plus loin, je crois tout art est politique. On prend toujours position avec tout ce qu'on fait, et soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience, et peut-être j'essaie dans mes pièces de travailler d'une façon avec les acteurs ou avec les sujets, que c'est une prise de conscience de ce fait, à mon avis, global aussi.
Mmh, absolument. Et là, comment prenez-vous position dans ce projet Point de Suisse, en travaillant avec Common.com, donc je le rappelle, Johannes Edinger, Marcus Gosselt, et bien sûr aussi René Lévy et Olivier Meuchler, donc les sociologues. Comment prenez-vous position dans ce projet?
Je dirais que là, on prend plutôt position en tant que chroniqueur. Quand on a développé les questions, moi j'ai vraiment essayé de faire attention, parce que moi je suis un des, je crois, 6 auteurs des questions. J'ai fait attention que c'est pas un projet alternatif de la gauche, où déjà les questions sont un peu gauchistes. Alors j'ai essayé de vraiment demander des questions qui m'intéressent aussi, par exemple la peur de l'islam. Oui. À mon avis, c'est plutôt une stratégie, une propagande politique. Mais moi, je m'intéressais, quelle est la vraie réponse? Et j'essayais qu'on posait les questions, que c'était pas implicitement déjà dit, ah oui, ça c'est quelque chose, que tu dois plutôt dire non, ils sont tolérants et tout ça. Alors moi, je m'intéressais vraiment de faire une ouverture sur ces questions-là. En même temps, c'est pour ça aussi que le projet n'est pas provocateur, n'est pas agressif et tout. Alors j'essayais vraiment, on essayait ensemble de trouver des questions qui ouvrent la perspective, plutôt que de pointer sur des soi-disant fautes vues par une perspective gauchiste.
Peut-on être un bon Suisse et ne se lever qu'à 9h du matin?
Peut-on être un bon Suisse et ne se lever qu'à 9h du matin? Et ne se lever qu'à 9h du matin?
Voilà, merci à Miloro, dont le spectacle Civil War sera présenté dans le cadre du Festival de la Bâtie à Genève, avec une rencontre avec le public lors du spectacle du 8 septembre. Michael Kinzer, dans ce questionnaire, le rêve suisse, c'était souvent devenir artiste et surtout pas trader.
Oui, je pense... Comme un certain nombre de questions politiques ont révélé aussi finalement des réponses et des réactions qui sont liées à la communication générale qu'on subit aussi, ou que la population subit, qui sont liées à l'actualité. C'est vrai qu'on y a quand même passablement de votations où l'islam est pris comme finalement esthétique de campagne presque, où c'est vrai que le grounding de Swissair ou la votation du 9 février sont des éléments à un moment qui sont très fortement imprégnés dans la tête des gens. Donc je pense qu'il y a vous avez parlé du rêve
des Suisses, devenir artiste, oui. Et surtout pas trader, c'est emblématique comme position.
Oui, alors je pense qu'on peut lire quand même les réponses de différentes façons. C'est vrai qu'il y avait une réponse qui était plutôt une question de négation en fait. Quels sont les métiers que vous voudrez le moins faire. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut forcément faire non plus ceux qui sont sortis le mieux de ça. Mais c'est vrai que ce que je voulais évoquer, c'est que le trader, enfin tout ce qui est la bourse, tout ce qui est l'économie, a quand même subi de la publicité négative toutes ces dernières années, que c'en est un peu la résultante.
Michael Kinzer, ce qui pourrait être intéressant, ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être c'est le mix entre sociologie et culture. Parce que vous êtes directeur d'un festival, le Festival de la Cité. On pourrait se dire, mais est-ce là le mandat du festival que d'offrir un terrain à une enquête sociologique? À moins que ce soit justement, peut-être, pour vous, une nouvelle destinée de la culture, c'est-à-dire vraiment questionner, interroger cette la trame sociologique dans laquelle nous vivons.
Je ferai écho à l'une des questions du sondage aussi qui questionnait finalement sur le sens de l'art. Est-ce qu'il doit susciter la réflexion, partager de la connaissance ou simplement embellir le monde et procurer du divertissement? Pour moi, le mandat finalement ou le sens ou la raison d'être du Festival de la Cité et de la culture en général, mais plus précisément du festival, c'est de démocratiser la culture, mais aussi de donner finalement accès à un public très très large, sachant qu'évidemment nos propositions sont offertes, donner accès à des propositions à laquelle le public n'est pas forcément habitué. Oui, on a des propositions qui sont finalement plutôt du divertissement, mais clairement, c'est une volonté, une démarche artistique de faire interagir culture, espace urbain, espace public, société. Et finalement, vous avez parlé de dématérialisation. C'est un projet qui est parti dans ce sens-là. On a pas seulement d'autres finalement projets qui permettent au public de se questionner, d'aller plus loin que juste ce qu'il avait vécu lors du projet, et en l'occurrence ce projet est peut-être l'extrême dans cette voie-là, mais qui me semble passionnante justement dans cette optique de mêler ça. Je dirais c'est pas tout à fait de la dématérialisation, où ça l'a été au début et finalement elle s'est reconstruite ou elle s'est réincarnée de différentes façons, évidemment par le biais des résultats, mais aussi par le biais d'une esthétique qui a été diffusée évidemment en ligne, mais aussi par le biais d'une campagne d'affichage assez large. Et là aussi je trouvais que l'esthétique proposée par Comencom était subtile, dans le sens où c'est évidemment une reconstruction de la croix suisse qui est finalement un symbole de fierté qui revient de façon très très forte régulièrement, qui est réappropriée régulièrement par la suite, puis après un peu réabandonnée, puis après et là en l'occurrence cette croix suisse et ce passeport suisse a été retravaillé sous la forme d'un point d'interrogation à l'envers. Point d'interrogation, c'est évidemment une question. Le point d'interrogation à l'envers, on parle d'un point d'ironie avec ce second degré, cette façon un peu biaisée que je trouvais évidemment intéressant. Et un nom, finalement, le point de Suisse, qui peut aussi suggérer qu'elle n'existe pas. Mais je trouvais que cette esthétique, finalement, a aussi contribué à diffuser ce projet, à être une reconstruction, finalement, d'un projet très, très immatériel.
Ce que l'on constate, c'est de très grosses différences entre l'enquête dite représentative et puis l'enquête online. Et l'enquête représentative, la population parlait de théâtre militant avec Milorao, etc., ou d'actes politiques. On voit bien que dans l'enquête représentative, on a 22% de personnes qui se répondent et qui se rattachent, on pourrait dire, à l'UDC en tant que représentation pour leur idéologie. Et dans le questionnaire online, qui sont principalement des questionnaires remplis par les personnes qui ont visité le festival, là on a 44%, sauf erreur, c'est peut-être à 1% près, de personnes qui se répondent ou qui se retrouvent dans l'idéologie, non pas l'idéologie, mais disons le Parti Socialiste. Alors donc on pourrait dire qu'on a deux populations très très différentes, une citadine plutôt cultivée, plutôt de gauche, et puis une population suisse qui est, on pourrait dire, assez quand même traditionnelle dans son imagerie et ses représentations. Est-ce que pour vous, Michael Kinzer, la culture devrait servir, parce qu'on parle beaucoup de Rejeté Graben ou Paulette Graben, mais finalement, la grande différence, elle est peut-être dans ces deux populations. Est-ce que la culture devrait servir de pont? Est-ce que vous avez ce souci-là en tête, entre ces deux mondes?
Alors pour moi, ce sont pas deux populations, vu que l'une fait évidemment partie de l'autre. Celle qui a rempli le deuxième sondage, qui était volontaire, fait évidemment partie de la population suisse en général. C'est vrai qu'on voit aussi que la population générale souhaite plutôt que l'art procure du divertissement, alors que le deuxième sondage, la partie qui a été volontaire, a favorisé aussi le fait qu'elle suscite la réflexion, etc. Clairement, oui, c'est le rôle pour moi de la culture, qu'elle puisse servir de pont et qu'elle puisse inciter à la réflexion. Je pense que la richesse d'une population, c'est justement qu'elle soit multiple, qu'elle soit diverse. Et ce serait dommage, finalement, que tout se rejoigne, puis qu'on ait une espèce de pensée unique. Enfin, ça aurait aucun sens. Par contre, justement, un projet comme Pointe Suisse permet finalement une appropriation individuelle aussi de ces différentes thématiques. Chacun peut continuer au-delà. C'est pas une représentation à un moment de cirque. On peut aimer ou on peut pas aimer. On en garde un bon souvenir ou non. Avec ces questions, ça permet quand même à chacun d'aller plus loin, de garder ça en tête, de pouvoir ou vouloir approfondir l'un ou l'autre sujet, et finalement de permettre aussi à ces différentes opinions ou personnes de converser et d'échanger par rapport à ces sujets-là, qui est plutôt une avancée sociologique que culturelle.
Quelles sont les peurs qui ont changé entre 1964, Expo Nationale, et 2014 des questions ont été posées dans ce sens-là.
Alors, évidemment, Olivier Mecher a mentionné le fait qu'on parle plus de communisme
mais plutôt
d'islam. En même temps, c'est un choix de questions. C'est vrai que dans le cas de la censure, finalement, passablement de questions se sont perdues, forcément les réponses aussi. Il y a ce clin d'œil, finalement, dans le choix de questions qui, sciemment, laisse aussi de côté un certain nombre de sujets. Donc, finalement, la partie qui a disparu, elle est volontaire au lieu d'être censurée. C'est vrai que la partie liée aux étrangers ressort quand même relativement fortement. Je trouve qu'il y a d'un côté quand même une solidarité dans la Suisse qui ressort autant dans la question à la fin qui est ouverte finalement, que devrait faire la Suisse prioritairement, que sur passamment d'autres questions d'échange, le soutien aux personnes plus âgées, soutien aux situations de handicap, etc. Passablement de solidarité, et en même temps je trouve une situation d'individualisme, mais finalement de pays, quand même quelque chose d'assez fermé. Mais de nouveau, je trouve l'ambivalence par rapport aux étrangers est finalement pour moi plutôt une preuve que la question sur les étrangers a été beaucoup thématisée dans le cadre de campagnes de votation. Et du coup, cette peur, est-ce qu'elle est vraiment réelle ou elle est
ou elle reflète
un petit peu manipulée ou construite aussi
Mais dans le sens, Nancy, de ce que vous questionnez, les peurs nouvelles, il y a tout de même, il faut peut-être amener une information. L'aide sociale et la pédophilie, c'est les plus grands crimes selon les sondés. C'est étonnant tout de même. L'aide sociale.
Oui, alors c'est la fraude à l'aide.
C'est la fraude à l'aide sociale. Juste la fraude, excusez-moi, bien sûr. Heureusement la précision. Ouais, fraude à l'aide sociale.
Oui, alors.
Surprenant, non?
Oui, alors ça m'a passablement surpris. Alors,
surtout à côté de la pédophilie.
Oui, la pédophilie et le viol, ça m'a pas surpris. Alors, est-ce que ça reflète une inquiétude ou simplement une révolte, finalement, contre un acte extrême qu'on devrait donc, en l'occurrence sur la question, punir plus sévèrement? C'est vrai que ce qui m'a presque plus surpris, pour être franc, par rapport à cet abus à l'aide sociale, c'est que la population suisse est plus pour punir plus sévèrement l'abus à l'aide sociale que la fraude fiscale. Et je trouve ça assez surprenant finalement, parce qu'on pourrait dire que bon, d'un côté,
alors que les gens préféreraient être artistes que traders, c'est quand même surprenant.
Puis d'un côté, on c'est de l'argent qu'on reçoit illégalement, mais de l'autre, c'est un argent qu'on reverse pas illégalement, qui a trait à l'économie et tout ça. Et, alors. Moi, personnellement, j'aurais presque trouvé que l'autre était plus grave comme ça, mais voilà.
Et il y a aussi les gestes que les Suisses souhaiteraient corriger ou oublier.
Oui, les gestes historiques.
Oui, alors là, de nouveau, pour moi, c'est un peu lié à la publicité, finalement. Le grounding de Swissair, on touche là au symbole, on touche à l'économie.
35,9%.
Oui, c'est énorme, alors que d'autres sujets plus politiques, à un moment plus de fond, finalement, à la réalité de la Suisse, sur les votations, justement, contre l'immigration en masse, etc., qui, je trouve, sont des éléments quand même, en plus récents, mais plus forts, sont passés au second plan par le grounding de Swissair. Il y a a quand même eu aussi un film, il y a eu différents éléments qui ont fait que c'est peut-être un symbole à un moment d'une de la surpuissance peut-être de la Suisse qu'on
n'imaginait pas.
La Suisse pouvait percevoir.
Et qu'on n'imaginait pas.
Qu'on imaginait complètement impossible. Mm-hmm. Je pense, même si le secteur bancaire ou toute l'économie est quand même passablement mise sous la critique dans les réponses. Je pense que si une grande banque suisse avait dû disparaître à une période où elles étaient en ballotage, je pense que ça aurait aussi apparu tout en haut des sondages.
Ça fait penser, grande banque, aux sigles. Et là, il y a quelque chose de très intéressant sur les sigles. On voit que CFF, PTT, parfait, c'est très bon. Par contre, UBS, USA... pas vraiment. Et ouais. Là, c'est la force du symbole, PTT. Mais la PTT, ça n'existe plus. Donc ça veut dire que l'on a besoin comme ça de symboles qui fleurent bon la Suisse, quoi. Y a un petit goût.
Oui,
on s'en souvient tous des PTT. C'est fort, ça.
Le plus fort, c'est le CHF. Donc c'est le franc suisse qui finalement est presque l'élément qui donne le plus confiance, le plus fédérateur. Je crois, si je me souviens bien, je crois que le sigle UBS était par contre avec le franc suisse le signe qui était le plus connu. Donc il y a le moins de gens qui ne le connaissaient pas, ce que je trouvais aussi assez intéressant. Et finalement, les États-Unis qui arrivent un peu au de peloton, donc USA, qui inspire le moins confiance, qui je trouve, je suis pas persuadé que ce soit vraiment une réalité. Là aussi, on est un peu orienté dans le sens où je trouve que la société globalement s'appuie quand même beaucoup sur les marques, le modèle américain, le rêve américain, etc.
Qu'est-ce qui va se passer le 25 septembre à Vidi?
Un événement public pour clore le projet Pointe Suisse avec un certain nombre
d'invités. Donc Pointe Suisse, on le répète, d'invités. Point comme un point,
voilà.
P-O-I-N-T, Pointe Suisse.
Exactement, donc un débat public, mais aussi un débat mise en scène pour finalement discuter de ces résultats d'un œil analytique, mais pas seulement. Il y aura Olivier Möschler et René Lévy, il y aura Johannes Edinger de Comencom, mais aussi pour pouvoir discuter de ce point de vue, de ce projet d'un point de vue média, d'un point de vue politique. Géraldine Savary sera aussi de la partie, d'un point de vue de l'histoire, de l'ethnologie, etc., pour parler du projet et de sa diffusion, de son impact dans l'espace public et pas seulement des résultats eux-mêmes.
Gulliver existe encore ? C'est qui aujourd'hui?
Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle d'un œil qui nous surveille, qui était évidemment la figure forte du sondage d'Expo 64? Je pense qu'on se sent peut-être moins observé, quoique on sent une présence quelque part. Alors,
on sait l'impact de cette manifestation en Suisse romande le 5 octobre. Enfin, ce sera à Zurich.
Le 14 octobre.
Le 14 octobre à Zurich. Est-ce qu'il y a eu le même impact en Suisse allemande?
C'était une des bonnes surprises, je dirais, pour le festival, c'est de voir que le sondage a été rempli, je crois, à 25% en gros dans le canton de Vaud et à 75% à l'extérieur. Beaucoup de
Zurichois existent ou pas?
Alors là, je dirais que c'est pas une question d'opinion, mais plutôt de diffusion du projet. On a parlé d'absence de scandale sur ce projet-là. Pour être franc, je pense quand même que c'est aussi lié à l'impact de diffusion, c'est-à-dire évidemment une exposition nationale avec finalement à l'époque où toute la Suisse se rendait à
oui,
Lausanne.
Il y a une différence d'échelle quand même.
Il y a une différence d'échelle quand même très très forte. On a quand même senti des inquiétudes venant du monde économique et du monde politique avant de voir les questions. Et je pense que le scandale aurait aussi pu avoir lieu si l'échelle avait été différente.
Vous regrettez de ne pas avoir été censuré?
Non, c'était pas du tout le but du projet, que ça ait suscité des discussions, on en était très contents.
Michael Kinzer, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Babylone du jour vous était proposé par Jean-Marc Falcombello, Nancy Psilantis, dans une réalisation de Patrick Lenoir. C'est Nicole Corpato, notre assistante de production. Mathieu Ramsauer était en régie aujourd'hui. Demain, dans Babylone, nous parlerons des mémoires nubiennes, la nouvelle exposition du l'Athénium de Neuchâtel. Nous parlerons des origines des pharaons noirs. Vous écoutez Espace 2 ? Merci. Il est 10 heures.